Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes le mardi 7 avril et vous écoutez toujours et encore Fréquence 7, la radio décalée, différente et pas pareille. Et c'est l'heure de la magistrale émission Drôle de Dame. Ravi de retrouver Vincent ce mois-ci, qui a été absent quelques temps. Muriel ne sera pas là aujourd'hui puisqu'elle est malade, comme il y en a beaucoup, des malades en ce moment. Et je crois que tu voulais dire quelque chose à propos de Claude, Vincent.
Tout à fait. Je tenais à vous informer que Claude ne sera plus dans l'émission avec nous. Voilà, c'est un choix personnel de sa part. Elle a d'autres projets, d'autres objectifs. Et je tenais, au nom de l'équipe de cette émission et des autres auxquelles elle a participé, lui faire un grand merci pour tout ce qu'elle a fait à Fréquence 7 avec Parole de citoyen de citoyenne et Drôle de dame plus récemment. Merci à toi, Claude.
Merci Claude. À toi, Claude. Alors voilà, comme vous le savez, le mois dernier, il y a eu les élections municipales et le deuxième tour, c'était le dimanche 22 mars. Et le 22 mars, c'était aussi la journée mondiale de l'eau. Mais bon, de ça, personne n'en a parlé sur les plateaux télé. Hein. On a plutôt préféré parler d'insécurité, de violence supposée, plutôt que de parler d'insécurité hydrique. Et oui, l'insécurité hydrique ne se limite pas à l'impossibilité de s'approvisionner en eau et d'être privé d'installations d'assainissement. Elle se manifeste également en cas d'excédent, de pénurie ou de pollution qui rend l'eau impropre à la consommation. Souvenons-nous, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu et consacré le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit de l'homme universel et autonome. Et même dans sa résolution adoptée le 28 juillet 2010, l'Assemblée reconnaît, je cite, que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Fin de citation. Eh ben, où en sommes-nous en 2026? Car en effet, de plus en plus de régions du globe sont touchées par des inondations qui rendent impropre la consommation d'eau, ou sont touchées par des canicules telles qu'elles vident les nappes phréatiques, elles-mêmes touchées par les pollutions des sols, etc. Bref, l'eau et le changement climatique sont inextricablement liés. Les phénomènes météorologiques extrêmes rendent l'eau toujours plus rare, plus imprévisible, plus polluée, voire les trois à la fois. Alors, ces impacts sur l'ensemble du cycle de l'eau menacent le développement durable, la biodiversité et l'accès des populations à l'eau et à l'assainissement, à la survie de l'humanité. Alors, il est urgent de ramener dans le débat cette question de l'eau, quelle politique mener, faire un état des lieux, etc., etc. Alors que l'eau douce se fait de plus en plus rare partout dans le monde, le capitalisme toujours avide de profit se montre immoral partout. Vincent, d'ailleurs, hein, tu veux nous parler de la fabrication d'une bouteille en plastique pour contenir de l'eau ou différentes boissons, et donc montrer l'absurde cycle de la bouteille en plastique.
Tout à fait. Vous savez, on l'a saisie machinalement dans un supermarché. Elle est transparente, légère, pratique. Et la bouteille en plastique semble être l'incarnation même de la simplicité moderne. Et pourtant, derrière ce geste banal se cache une absurdité vertigineuse. Car oui, pour fabriquer une simple bouteille d'eau en plastique, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. On estime qu'il faut environ 3 litres d'eau pour produire une seule bouteille en plastique d'un litre. 3 litres pour contenir un litre. L'ironie est presque trop parfaite pour être vraie. Alors prenons un instant pour réaliser ce que cela signifie. Dans un monde où l'eau potable devient une ressource de plus en plus précieuse, où certaines régions souffrent de sécheresse chronique comme tu as dit Florence, nous utilisons de l'eau pour produire des contenants jetables destinés à transporter de l'eau. C'est comme remplir un seau percé en espérant qu'il déborde. Ce paradoxe est le symptôme d'un système qui marche sur la tête. La fabrication du plastique nécessite non seulement de l'eau, mais aussi du pétrole, de l'énergie, du transport, puis encore de l'eau pour refroidir, nettoyer, transformer. Tout ça pour un objet qui sera utilisé quelques minutes avant d'être jeté. Seulement quelques minutes. Et ensuite? Eh bien ensuite, une vie quasi éternelle. La bouteille mettra des centaines d'années à se dégrader, elle voyagera peut-être dans un fleuve, puis dans un océan et se fragmentera en microplastiques et finira dans l'eau que nous buvons. Le cycle est bouclé, tragiquement bouclé. Ce qui est peut-être le plus dérangeant, ce n'est pas seulement l'impact écologique, mais la banalité du geste. Nous ne voyons plus le problème. Acheter une bouteille d'eau est devenu un réflexe, presque un droit, alors même que dans de nombreux endroits, l'eau du robinet est potable, contrôlée, accessible. Alors pourquoi continuer ? Par habitude, par marketing, par confort ? Parce qu'on nous a vendu l'idée que le plastique était pratique, propre, moderne. Et qu'on oublie qu'il est surtout coûteux pour la planète. 3 litres d'eau pour fabriquer une bouteille, cette donnée à elle seule devrait suffire à nous arrêter un instant, devant un rayon, à reconsidérer ce geste anodin. Car au fond, la vraie question, elle n'est pas technique, elle est presque philosophique. Comment avons-nous accepté de gaspiller autant pour quelque chose d'aussi éphémère ? Peut-être qu'il est temps de refermer le robinet de l'absurde.
Tout à fait, Vincent. Et à propos justement de réflexion philosophique, ça interroge sérieusement la question justement du capitalisme qui est toujours avide de profit et qui a cette tendance à s'immiscer jusqu'à à produire carrément un esprit. Et donc du coup...
Et sans compter qu'on crée des océans de plastique sur des kilomètres carrés.
Absolument, absolument. Donc jusqu'où on va s'arrêter, quoi. Et du coup, il y a d'autres points dangereux qu'il faut soulever à partir de ce que tu viens de dire, Vincent. Derrière cette absurdité du cycle de la bouteille en plastique, il y a d'autres études qui ont montré que de nouveaux aspects de la contamination de l'eau en bouteille étaient à relever, puisque 78% des eaux minérales, on va se demander quand même s'il faut les appeler comme ça, 78% des eaux minérales, donc en bouteille, analysées en 2022 par l'association Agir pour l'environnement, étaient contaminées par des microplastiques. Donc ça date du 20 juillet 2022. Et ces contaminations proviennent de l'emballage, que ce soit la bouteille ou du bouchon, mais aussi des processus de traitement que tu as évoqués, que subit l'eau avant embouteillage. Et aux microplastiques, désormais, donc ce sont des particules de moins de 5 mm, s'ajoutent désormais les nanoplastiques qui mesurent moins d'un micromètre. Et donc, selon l'étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Columbia, parue en 2024, chaque litre d'eau vendue en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique, dont 90% de nanoplastiques. Et tout cela, évidemment, flingue littéralement la santé. Donc, quand on fait la promotion des eaux en bouteille comme garantissant une bonne santé parce que riche en minéraux, rien n'est moins sûr. Par contre, ce qu'il est, c'est que ces bouteilles, elles, sont bel et bien riches en microplastiques. Et tout ça pourquoi ? Eh bien voilà, pas pour l'intérêt général, mais bel et bien pour le profit des industriels. En effet, l'eau en bouteille est une vraie manne financière pour les industriels. 14,7 milliards de bouteilles, je ne sais même pas si j'arrive à m'imaginer tout ça, sont commercialisées en France chaque année, toutes boissons confondues, soit environ 220 bouteilles par Française. L'eau représente le contenu de 8,4 milliards de ces bouteilles, soit à peu près 60% d'entre elles. Au total, selon l'Inspection générale des affaires sociales, les eaux en bouteille représentent un marché colossal de 2 milliards d'euros chaque année. Eh bien, nous voilà. Nous y voilà. Mais si seulement ça s'arrêtait là, mais même pas, à cette pollution plastique de l'eau en bouteille, s'ajoutent des contaminations microbiologiques, puisque un rapport de l'Inspection générale interministérielle du secteur social, rendu en 2022 et révélé publiquement par une enquête à la fois de France Info et du Monde, estime qu'au moins 30% des marques françaises d'eau de source et minérales ont recours à des traitements non conformes pour cacher la présence de contaminations microbiologiques et chimiques, résidus de pesticides, PFAS, etc. Et une note de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, remise au gouvernement en octobre 2023, fait état de ces contaminations régulières sur de nombreux puits du groupe Nestlé et estime que les non-conformités détectées ne devraient pas conduire à la production d'eau embouteillée. En clair, les sources contaminées ne devraient plus être exploitées pour produire de l'eau minérale naturelle. Enfin, si on appelle ça encore de l'eau minérale. Alors donc, du coup, à la question le capitalisme est-il immoral ? Je crois qu'on a la réponse. Tant qu'on sera dans cette logique de profit, eh bien alors on fera tout et n'importe quoi, au détriment de la santé humaine, au détriment du respect de l'environnement, etc., etc. Alors justement, Daniel, tu voulais aussi, toi, revenir un petit peu sur toutes ces questions, et revenir donc sur cette idée du droit à l'eau. Et est-ce que tu peux, du coup, nous rappeler que si le droit à l'eau est un droit humain absolument vital, alors l'esprit capitaliste, hein, qui consiste donc à en faire une marchandise, et donc à spéculer sur l'eau, est la cause d'inégalités sanitaires. Et qu'à l'inverse, si on considère l'eau comme un bien commun, alors la gestion de l'eau et les solutions politiques sont, elles, tournées vers les besoins des gens, et donc deviendraient démocratiques. Je crois que tu as quelques mots à nous dire, hein, sur ces hypothèses et solutions politiques.
Oui. Le droit à l'eau est aujourd'hui effectivement considéré comme un droit humain, c'est reconnu, parce que l'eau est vitale. Sans eau, un être humain meurt au bout de 3 jours. Aucun être humain, aucun être vivant ne peut survivre sans eau. Mais c'est vrai que l'eau ne peut pas être une marchandise. L'eau, elle ne doit pas rapporter de l'argent à des fonds européens ou autres. L'eau, c'est un bien commun à toute l'humanité et c'est un bien précieux. Personne ne devrait pouvoir se l'accaparer à son seul profit. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement, une régie publique de l'eau, plutôt que du privé, puisque en France, il y a encore beaucoup de régies privées, de DSP. Ben, c'est la possibilité de décider, par exemple, que les premiers mètres cubes d'eau seront gratuits, on peut être transparent sur les prix, on peut gérer l'eau au mieux dans ses coûts, on peut réparer les fuites d'eau potable, parce qu'il y en a énormément sur les réseaux, rénover les conduites, faire baisser les tarifs. Tout cela plutôt que de rémunérer des actionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent de l'eau reste à l'eau, est utilisé pour l'eau. En France, qui est un pays tempéré, qui n'a jamais manqué d'eau, il semble incroyable de ne pas avoir d'eau au robinet. Et pourtant, 700 communes se sont retrouvées en rupture en 2023. Les nappes phréatiques ne s'étaient pas rechargées l'hiver précédent, parce qu'on avait eu un hiver caniculaire. Une hydrologue qui s'appelle Emma Aziza, docteur de l'École des mines, nous a dit qu'il semble que la France se réchauffe plus vite et plus intensément que le reste du monde, et la hausse des températures est plus élevée en France que la moyenne mondiale.
Ok. Et je crois que tu as 2 exemples à présenter rapidement, justement, pour illustrer des politiques strictement opposées.
Strictement opposées. Par exemple, en Californie, ça commence à être un peu connu, aux USA, l'eau est cotée en bourse. C'est-à-dire que son prix est entre les mains de boursicoteurs. Hein, on joue avec ça en bourse. Et par contre, à tout à fait à l'opposé, en Slovénie, qui est un pays de l'Union européenne, le droit à l'eau est inscrit dans leur constitution. Et récemment, les Slovènes ont initié un référendum pour refuser massivement, à plus de 80% quand même, hein, que l'eau soit marchandisée par l'ouverture à la concurrence. Ce que demandait, bien sûr, une coalition des droites en Slovénie. Donc ça nous rappelle l'intérêt du référendum d'initiative citoyenne au niveau communal comme au niveau national.
Alors en effet, donc un retour à la régie publique de l'eau, c'est donc une action politique qui vise l'accès pour tous à un droit absolument vital.
Absolument.
Mais hélas, il faut quand même pointer du doigt que pour égalité sanitaire il y ait, il faut que justement l'eau soit de qualité. Or, les eaux sont de plus en plus polluées.
Oui.
Daniel ?
Oui. Hélas, tous les fleuves, toutes les rivières de France sont polluées à ce jour. L'eau qui arrive au robinet chez nous contient de nombreux contaminants dont les effets nocifs sur la santé et l'environnement ne sont plus à démontrer. Que Choisir avait fait dans son numéro de février 2025, un numéro spécial là-dessus qui sonnait l'alerte. Et bien sûr, ce sont les activités industrielles qui provoquent des rejets toxiques de métaux, d'hydrocarbures, de pesticides, de perturbateurs endocriniens et des PFAS. Les PFAS, ce sont des polluants éternels. On les appelle ainsi parce que, bien sûr, ils sont très persistants. Et je ne vous les ai pas tous cités. Toutes ces horreurs sont déjà présentes dans l'eau, l'air, le sol, les pluies, les écosystèmes et aussi dans le sang de la population humaine. Si on nous faisait là une prise de sang, on en retrouverait chez chacun et chacune de nous. Les scientifiques et diverses administrations appellent à rapidement réglementer et surveiller les PFAS. Le projet d'interdiction des PFAS dans l'Union européenne est contré par une campagne de lobbying, bien sûr, intense, qui est menée par des entreprises industrielles utilisatrices de ces produits. Résultat, les actions envisagées sont reportées. Et comment réagit le gouvernement français ? C'est simple, il augmente les taux acceptables de polluants. Voilà, c'est simple.
Eh bien, voyons. Bon, alors, à côté de la puissance des lobbies industriels, donc tournés vers le seul profit, hein, et qui accentuent du même coup les inégalités sanitaires, tu voulais quand même nous informer de l'existence d'une association européenne qui, elle, promeut la gestion publique de l'eau et qui, du coup, donne à réfléchir.
Oui, c'est une association qui s'appelle Aqua Publica Europea et qui a été créée en 2009. Ça paraît quand même bien tardif. La présidente de cette association s'appelle Anne Lestrat. Elle est présidente de cette association Aqua Publica Europea. Elle est adjointe à la mairie de Paris. Cette association, elle a pour vocation de promouvoir la gestion de l'eau publique, de fédérer les opérateurs publics et de représenter les entreprises auprès de l'Union européenne, pour contrer justement le discours dominant qui favorise la gestion privée. Et face au lobby du secteur, donc, la gestion publique, qui est basée sur les valeurs du service public, peut se défendre, se battre. Elle est composée d'opérateurs italiens, portugais, français, suisses, espagnols, allemands, et ils font entendre leur voix. Mais plus que faire entendre leur voix, ils ont créé maintenant suffisamment d'expériences dans tous les pays pour les partager, les mutualiser et coopérer dans leurs actions. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on n'a pas de résultat de leurs actes.
D'accord. Alors, je crois que tu voulais nous parler du rapport de l'université de l'ONU qui, en janvier... est alarmant dans une certaine mesure puisqu'il évoque carrément un effondrement de la ressource de l'eau et donc par conséquent il serait urgent de créer un nouveau cadre juridique international.
Oui, ces scientifiques disent cette phrase terrible, la Terre est entrée dans une ère de faillite globale de la ressource en eau. C'est-à-dire que les termes de stress hydrique et de crise de l'eau habituellement utilisés, suggère en effet une situation de pénurie temporaire qui pourrait donc revenir à la normale. Mais le 26 janvier 2026, les auteurs du rapport issu de l'Institut de l'eau, alors c'est l'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université de l'ONU de Richmond au Canada, disent qu'il faut aujourd'hui parler de faillite. Ce sont des changements irréversibles qui sont arrivés et restaurer la situation en faisant semblant de croire que c'est faisable de retourner à une situation normale, il faut absolument l'évacuer. Ce sera impossible. Ce mot faillite cherche donc à décrire une situation nouvelle, profondément alarmante, où les pertes d'eau sont extrêmement graves. Dans de nombreux bassins versants et aquifères, les prélèvements excèdent largement le renouvellement par les précipitations. Ce qu'on appelle le capital naturel, constitué par les fleuves, les rivières, lacs, étangs, glaciers, zones humides, nappes phréatiques, a été affecté au-delà des limites d'une possible restauration des capacités antérieures à l'ère anthropocène. En conséquence, près des trois quarts de l'humanité vivent dans l'insécurité de l'approvisionnement en eau. C'est affolant, trois quarts. Donc les surfaces terrestres occupées par des étendues d'eau douce ne cessent de diminuer. Un nombre croissant de fleuves n'arrive plus à atteindre la mer du fait d'une exploitation trop forte tout au long de leur parcours. Donc ils sont complètement desséchés avant d'arriver. Alors le cas du Colorado aux États-Unis est très connu, il est archi spectaculaire. J'avais eu l'occasion de voir ça dans une exposition, c'était effrayant ce qui était pompé, et donc à des kilomètres en amont de la mer, tout était desséché, il n'y avait plus du tout. Mais il n'y a pas que le Colorado, il y a à peu près 64 millions de kilomètres de cours d'eau qui sont ainsi desséchés sur l'ensemble des continents et à toutes les latitudes. Donc il n'y a plus d'eau. Donc au cours des 50 dernières années, 410 millions d'hectares de zones humides ont été asséchés. Ça représente la surface de l'Union européenne. Alors, avec l'assèchement des eaux de surface, l'exploitation des eaux souterraines s'intensifie, bien sûr, parce qu'on va aller pomper dans les nappes phréatiques jusqu'à 70% hein, dans le monde, qui a vu leur niveau baisser. Ces pompages provoquent des affaissements de sol sur plus de 6 millions de kilomètres. Les glaciers qui ont superfondu ont perdu 70% de leur masse depuis les années 70, alors qu'ils constituent normalement d'immenses réserves possibles, réservoirs pour les populations et les bâtiments. Voilà, donc ce rapport de l'université donne une vision globale d'une pénurie d'eau qui affecte l'ensemble de la planète. En parlant de faillite, les scientifiques espèrent que les mesures seront prises non plus pour restaurer la ressource, puisque ce n'est plus possible, mais au moins pour l'épargner le plus longtemps possible. La principale recommandation est de passer d'une gestion de crise à une gestion de faillite, c'est-à-dire de considérer avec lucidité ce qu'il reste du capital pour le préserver et non plus chercher par tous les moyens à retrouver la situation d'avant.
D'accord, donc c'est plus qu'un avertissement qui effectivement annonce une nouvelle crise, mais c'est un appel retentissant pour effectivement un nouveau cadre juridique international qui doit donc mesurer l'ampleur de cette faillite d'eau.
Et absolument. Et c'est extrêmement urgent, semble-t-il.
Bien. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Alors, je voulais juste... tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste finir quelque chose. C'est que ce rapport va faire l'objet d'un examen, puisque il va y avoir prochainement, les 26 et 27 janvier, dans une rencontre préparatoire au sommet mondial de l'eau, qui est prévu les 2 et 4 décembre 2026 aux Émirats Arabes Unis. Ce rapport va donc être observé et étudié. Et normalement, c'est à ce moment-là que des décisions peuvent être prises pour trouver des accords et une gestion commune.
D'accord. Super. Bah, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications et précisions. Alors, à propos de cette question du cycle de l'eau douce... je voulais revenir juste un instant sur justement ce qu'on appelle les limites planétaires, hein, qui est un terme apparu autour de 2009. Et l'idée sous-jacente, hein, est de pouvoir répondre facilement à la question suivante, justement jusqu'à quelle limite le système Terre pourra-t-il absorber les pressions anthropiques, c'est-à-dire des activités humaines, sans compromettre les conditions de vie de l'espèce humaine. Et donc, le cycle de l'eau fait partie des 9 limites planétaires qui, évidemment, a largement été dépassée, puisque, à l'état actuel des choses, 7 limites planétaires sur les 9, je ne vais pas vous les citer, ont été franchies. Et donc, du coup, ça interroge fondamentalement, justement, l'espace de fonctionnement sûr pour l'humanité. Alors, si on revient un instant sur le cycle de l'eau douce, donc qui est essentiel pour la vie sur Terre, eh bien pendant longtemps, et tu l'avais dit d'ailleurs au début de l'émission, que ce cycle d'eau douce semblait acquis, au moins dans les pays comme la France, et pourtant c'est loin d'être le cas, hein, puisqu'elle se fait de plus en plus rare, et ce partout dans le monde. Les raisons en sont les surexploitations, la pollution, le réchauffement climatique, etc. Et certains scientifiques d'ailleurs parlent désormais de l'or bleu. Le risque, eh bien, c'est que, au-delà des impacts sanitaires, certains estiment que demain des guerres pourraient avoir lieu à cause justement des enjeux liés à l'eau. Et donc en France, hein, on a bel et bien fait face à des problèmes tels que les villages privés dont tu as parlé tout à l'heure, et fait face à la pollution de l'eau dans les bouteilles en plastique, les méga-bassines hein, aussi. Et bref, tous les enjeux liés à cette répartition des ressources entre le tourisme, l'agriculture et l'usage privé. Donc du coup, hein, tous ces sujets sont fondamentalement liés, et strictement liés même à cette limite planétaire. Et donc le cycle de l'eau douce est vraiment un sujet qui doit être sérieusement pris en compte, et ce, le plus tôt possible, pour pas dire... immédiatement. Alors justement, Vincent, je me tourne une dernière fois vers toi. Tu voulais exposer rapidement les difficultés d'accès à l'eau potable en Mayotte, pointant alors là des inégalités sanitaires hyper criantes.
Tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai évoqué que acheter une bouteille d'eau, c'était devenu banal. Pendant ce temps-là, à quelque part sur le même territoire, des gens attendent que l'eau revienne, pas dans un désert, pas à l'autre bout du monde, en France, dans les Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, l'eau n'est pas une évidence, c'est une attente, parfois une angoisse, parfois une loterie. On appelle ça les tours d'eau, alors un mot qui paraît presque poétique pour décrire une réalité brutale, des coupures programmées, quartier par quartier, jour par jour. Tout à l'heure, tu le disais, Daniel, c'est au bout de 3 jours, un être humain ne peut pas vivre. Et bien là, à Mayotte, en 2023, l'eau était coupée jusqu'à 4 jours sur 5. 4 jours sans eau. Pas d'eau pour boire, pas d'eau pour se laver, pas d'eau pour tirer une chasse. Et parfois même pas d'eau à l'école. Pendant ce temps-là, en Guadeloupe, des dizaines d'établissements scolaires ont dû fermer faute d'eau. Des hôpitaux ont dû repousser des opérations, des maternités ont fermé temporairement. On est loin du confort, on est dans une rupture. Ce n'est pas juste un problème de météo, c'est aussi un problème de système. Les réseaux sont vétustes, en Guadeloupe 60% de l'eau potable disparaît dans les fuites avant même d'arriver au robinet. Alors on parle de la France, mais dans quelle France parle-t-on exactement ? Celle où l'on hésite entre l'eau plate et l'eau pétillante ou celle où l'on attend que l'eau coule ? Ce contraste est violent, presque indécent. Parce que pendant qu'on produit des bouteilles en plastique en gaspillant de l'eau, pendant qu'on consomme sans y penser, d'autres vivent dans une pénurie organisée, structurelle et installée. Comme si certains territoires étaient devenus invisibles. La députée Mathilde Panot parlait d'une crise profonde, d'un droit fondamental qui n'est plus respecté, le droit à l'eau. Et au fond, la question est simple, pas technique, pas politique, humaine. Comment peut-on accepter que dans un même pays, certains ouvrent un robinet pendant que d'autres attendent qu'il fonctionne ? Et peut-être que le vrai scandale est là. Et dans le manque d'eau, et surtout dans le manque d'égalité.
Et oui, et donc on serait au 21e siècle, c'est ça, siècle des progrès, etc., etc. Et ben voilà, c'est terminé donc pour aujourd'hui. On se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
D'ici là, portez-vous bien.
Portez-vous bien. Au revoir.
Cache-cache avec notre avenir, on danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche, nous on préfère détruire. On est devenus des monstres, on voulait juste être grand. En course contre la montre, juste pour tuer le temps. Qui pour montrer l'exemple à part nos parents. Depuis la naissance, on nous dit de faire semblant. Alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour. Combien coûte l'essence pour avancer d'un tour? Dans notre indécence, il nous reste l'amour et notre adolescence qui durera toujours. On est des enfants du danger. Coup de soleil, on descend. Notre terre, une soirée. En bordel comme notre chambre. Enfants du danger. La terre veut un scaphandre qui pourra la venger. Quand tu seras. Il nous reste l'amour.